Dans le cadre de Paroles de Conti, nous avons eu le plaisir de recevoir Jérôme Gaborio, le programmateur des escales. Une interview réalisée le mardi 23 mai par Rémi, Shannon
et Soumia.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous et votre métier ?
Bonjour, donc je suis Jérôme Gaborio, je suis en charge de la programmation du festival Les Escales et de toute la partie artistique, on va dire, donc ce qui peut graviter autour de la programmation musicale. Donc mon métier, essentiellement, c'est de inviter des artistes à venir constituer l'affiche du festival. La programmation du festival, moi j'ai l'habitude de la qualifier en trois étapes. Il y a les artistes les plus connus. On peut retrouver cette année Angèle, Gazo, Dinos et d'autres. Donc ça, ce sont pour moi les têtes d'affiche. Et puis après, il y a ces artistes découvertes qui vont créer la surprise. Je pense à Sima Funk, Meul, mais aussi à Stéréotypie, par exemple. Et puis, il y a une partie qui va être ouverte sur le globe, autour du monde. Et cette partie-là, qui est une partie très importante de mon boulot, qui est cette année, sous l'intitulé Globetrotter, deuxième partie, va inviter des artistes du monde entier, en partenariat avec des festivals situés aux quatre coins du monde.
Comment avez-vous commencé ce métier et quelles études faut-il faire ?
Alors moi, ça fait 23 ans que j'occupe ce poste, donc autant dire que ce n'est pas hier. Et qu'à l'époque où j'ai commencé dans ce métier-là, il n'y avait pas forcément de formation adaptée. Non, il en existe beaucoup. Donc j'ai fait un DUT carrière sociale option culture à Rennes. Et puis ensuite, j'ai passé un diplôme d'état aux fonctions d'animation, le DEFA, avec aussi là une option culture, dans l'idée de valider ses acquis et d'avoir un bac plus 3. En parallèle de ça, ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est aussi tout le militantisme associatif que je conduisais en parallèle. C'est-à-dire qu'avec des amis, on a créé une association dont le but était d'organiser des festivals et des concerts. Donc très tôt, avant même ma majorité, j'étais baigné dans cet univers-là à l'organisation d'événements. Donc c'est aussi ça que j'ai voulu transformer par une validation d'un diplôme et puis... pour finir par en faire mon métier, au final. Alors maintenant, il existe plein de formations. On peut y accéder par des licences pro, on peut y accéder par un parcours licence master, dans conception et développement de projets culturels, gestion de structures culturelles. Il y a énormément de formations qui existent un peu partout. Il y en a à Angers, il y en a à Rennes, et il y en a partout en France, en fait.
Comment décririez-vous les escales à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce festival ?
Je dirais que c'est un festival unique, déjà, de par sa situation, parce que c'est un festival urbain, en ville, sur un port, entouré d'eau. Donc déjà, le voyage, il est prometteur. Ensuite, c'est un festival qui allie à la fois les artistes de notoriété et des découvertes d'artistes complètement inconnus qui vont rester dans l'oreille et qui, j'espère, auront une carrière après dans le futur. Donc pour moi, les escales, c'est ce festival... qu'on peut proposer comme une pause dans le temps sur ce port de Saint-Nazaire avec tous ces agréments. On y retrouve quatre scènes, une plage, une grande roue, un club 360 qui est dédié à la scène électronique, ce qui n'est pas banal pas comparé à d'autres événements. Donc c'est un festival aussi très familial. Il y a la gratuité pour les moins de 12 ans, donc ça favorise tout ça. Et puis il y a un espace pour la famille au travers du poisson pilote. Donc... c'est un festival dans lequel on peut grignoter différentes choses. On peut, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il y a aussi une place très importante des associations, puisqu'il y a 10 associations nazariennes qui proposent de la restauration en lien avec les différentes destinations autour du monde. Et donc, c'est un festival plein et entier, aussi militant, puisqu'on y retrouve... Des espaces notamment où sont représentés SOS Méditerranée, Sea Shepherd et bien d'autres qui vont apporter un éclairage particulier sur l'environnement géopolitique qui nous entoure en fait.
L'identité du festival est-elle liée à celle de la ville de Saint-Nazaire ?
Ouais, déjà de par son nom, les escales. Moi j'étais pas là à sa création, mais je suis arrivé 7 ans après, hein, puisque on est à la 31e édition. C'est une escale, en termes de voyage, c'est une pause, un arrêt dans un coin inconnu du monde. Et cette escale, elle se situe sur un port. Donc ça donne énormément de sens et c'est comme ça qu'a été créé ce festival-là, avec l'idée de... À Saint-Nazaire, il y passe des cargos qui viennent du monde entier. On y découvre un petit bout de culture pour ceux qui travaillent dans le milieu maritime, puisqu'ils sont confrontés à rencontrer des populations qui viennent de loin. Et ben nous, c'est ce prolongement qu'on apporte. Saint-Nazaire, c'est une ville de mixité culturelle. Et que de mieux que de l'illustrer par la musique. Donc l'ADN des escales, elle est très attachée à cette ville portuaire.
Pour en revenir à la programmation, est-ce que vous êtes seul à choisir les artistes qui sont programmés et comment vous faites? Et est-ce que la programmation correspond à vos goûts ou aux goûts des autres?
Alors, je suis seul à défricher, à faire des choix, et évidemment. Après, il y a une validation de mon directeur, Gérald Chabot, sur chacun des artistes. Après, ça se passe dans un échange très simple et souvent, on est en accord. Donc, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais oui, c'est mon métier. Donc oui, c'est moi qui fais les choix en général. Alors, les choix, non, ce ne sont pas mes goûts. Sinon, il n'y aurait pas forcément tous les artistes que vous pouvez voir sur cette affiche. Je prends en compte différentes choses. C'est un festival familial et populaire. Donc, il est important de prendre en compte toutes les tranches générationnelles de la population. Donc, on s'adresse aux plus jeunes, on s'adresse aux moins jeunes. Et c'est un peu comme ça que j'essaie de décliner la programmation. Et puis, on est face à une économie aussi d'un événement. C'est un événement qui équilibre financièrement son budget sur une base de 40 000 entrées payantes, ce qui est conséquent. Donc, on a besoin aussi d'artistes qui vont être un peu des phares pour drainer le grand public et nous permettre aussi de développer des projets un peu plus confidentiels. Je repense encore à la partie Globetrotter et la venue de ces artistes inconnus. Elle est permise aussi par la venue du grand public, peut-être pour découvrir des artistes connus, et ils vont repartir à l'oreille des sonorités d'ailleurs. Donc ces différentes étapes de programmation. On ne travaille pas non plus de la même manière quand on veut programmer une tête d'affiche que quand on veut programmer un artiste en découverte. Il y a des agents. J'aime bien prendre cette comparaison. Il y a une série 10% qui se passe dans l'univers du cinéma où il y a des agents qui représentent les comédiens. Et ben dans la musique, c'est exactement la même chose. Il y a des agents qui représentent ces artistes, Angèle et les autres. Et donc, ces boîtes-là, elles ont un genre de catalogue avec tous les artistes. Et là, moi, je commence déjà à bosser pour l'année prochaine, pour 2024. Donc on commence à savoir quels sont les artistes qui vont être en tournée, le coût d'un cachet pour ces artistes-là. Et on commence à mettre quelques options sur certains de ces artistes-là. Et puis après, il faut aller voir énormément de concerts, énormément de choses, en France, mais aussi à l'étranger, pour se faire une idée de la valeur de ces artistes-là, de la tonalité qu'on pourrait donner à une édition du festival. Et là, c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de temps de présence et sur des événements musicaux où là, c'est là où ça va alimenter ma curiosité et puis pour transformer l'essai pour les éditions suivantes.
Comment faites-vous à travers votre programmation pour faire venir des personnes de tous âges aux escales?
C'est un peu ce que j'expliquais juste avant. On n'est pas sur les mêmes esthétiques quand on programme un Gazo, un Angèle, un Isia. On ne s'adresse pas aux mêmes populations. Et donc, de ce fait, on peut y venir en famille parce que peut-être que les parents vont venir pour découvrir une Jana Dead et que les enfants viendront plutôt pour Père de Mère. Et c'est comme ça aussi qu'on construit une programmation en essayant de penser à toutes les tranches de la population.
Avez-vous souvent des refus de la part des artistes? Si oui, comment vous rebondissez?
C'est vrai qu'avant d'arriver à une affiche complète, on fait énormément d'offres. On parie sur certains artistes et puis parfois la disponibilité n'est pas là. Le budget est trop important pour faire venir cet artiste-là au regard de mon budget artistique. Et dans ce cas-là, on passe à d'autres. Il y a beaucoup d'offres en fait en réalité. Ce qui peut parfois être problématique parce qu'on peut retrouver les mêmes artistes sur énormément d'événements et ça fait un peu redondant. Moi, c'est ce qui me gêne. Mais les artistes en tournée sont ceux qui décident de tourner. Donc, à la fois, il y en a beaucoup, mais c'est un peu toujours les mêmes. Donc, on essaie d'effectuer son choix dans cette typologie d'artistes-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a maintenant longtemps que je fais ce boulot-là. Et donc, j'ai un réseau important qui me permet d'aller en contact peut-être plus direct avec certains. Et puis, l'événement, il a une très bonne presse. Donc, il intéresse aussi les artistes parce qu'on a des médias nationaux qui ne sont pas forcément présents sur les autres événements. Et donc, c'est intéressant pour ces artistes-là d'avoir des jolis papiers dans la presse. Et c'est un argument pour venir à Saint-Nazaire. L'accueil y est bien, on est réputé pour ça. Le public est chaleureux, c'est tout le temps ce qu'on nous dit. L'an dernier, les artistes, pour la plupart, ont dit « Ça reste le festival de ma tournée de 55 dates ». C'est fou, alors qu'ils ont fait les vieilles charrues, qu'ils ont fait d'autres trucs. Mais parce que le site est particulier, le public est vraiment chaud, clairement. Et puis convivial, il n'y a jamais d'embrouille sur les escales. C'est paisible. On y passe un vrai bon moment.
Cette année, c'est une programmation très féminine. Est-ce un hasard ou était-ce une volonté du festival d'avoir une programmation plus paritaire ?
Eh bien, les deux, je dirais. Parce qu'on a toujours en tête cette idée d'un équilibre de représentation, aussi bien masculine que féminine. Les choix, une fois que j'avais construit ce puzzle, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une parité. Et c'est bien que ça se passe comme ça. Et quand on regarde les éditions précédentes, la plupart du temps, il y a une belle équité entre la présence masculine et féminine sur scène, mais pas forcément des leaders des groupes dans l'ensemble des équipes artistiques. Et cette année, c'est vrai qu'on est quasiment à la parité. Il y a une attache particulière à ce que tout le monde soit représenté de manière égale. Ça, c'est une évidence. Et puis, dans les politiques d'État, un festival, il fonctionne évidemment avec la billetterie, les tickets achetés, mais aussi avec quelques aides financières de la ville de Saint-Nazaire, la région, du département, mais aussi d'organismes d'État. Et les critères évoquent un équilibre entre la présence masculine et féminine sur scène, ce qui peut conditionner des financements particuliers. Ça, c'est une forme incitative. Moi, j'aime pas trop ces notions d'obligation qui conditionnent des financements, mais idéologiquement, ça fait partie aussi de l'ADN des escales qu'il y ait une présence paritaire, homme-femme, mais au-delà de ça, même des différentes cultures du monde. C'est plus ça, moi, en fait, qui guide, qui est mon moteur pour avancer sur une programmation.
Avant, le Festival des Escales était un festival de musique du monde. Pourquoi avoir changé de projet ?
C'est vrai qu'on a gommé cette appellation musique du monde pour plusieurs raisons. Déjà, quand on est en 2023... Musique du monde, il y a une notion un peu péjorative à mon goût. Pour moi, ça me replonge dans le colonialisme et c'est pas très joli aux oreilles. Pourquoi une musique qui vient d'Afrique, c'est une musique du monde, alors qu'une musique française, c'est des musiques actuelles ? Ben non, c'est vraiment une vision par un prisme français, francophone, quoi. Et nous, quant à musiciens, qu'ils soient africains, qu'ils soient d'Argentine ou d'Amérique latine, il va faire un style de musique. Il va faire de la cumbia, il va faire du reggae, il va faire du rock. Mais ça peut être un rock empreint d'une culture, d'un territoire. Donc nous, on fait des musiques actuelles du monde. Je ne sais pas comment le qualifier, mais moi, je fais des musiques actuelles en réalité avec des sonorités du monde entier. Et c'était important de ne pas forcément conserver ce mot « musique du monde » qui, pour moi, est vraiment, je le redis, il a une connotation très péjorative. C'est un rayon dans la FNAC. On retrouve toutes les musiques de couleur, en fait. C'est ça qu'on veut exprimer. Moi, ce n'est pas ce qui m'anime. C'est vraiment le style musical en tant que tel. On fait du rock, du blues, de l'électro, du rap. Voilà. Et le rap, on le retrouve sous toutes les latitudes, par exemple. Donc, on continue de s'intéresser plus que jamais, d'ailleurs, aux cultures étrangères, mais plus sous l'intitulé « Musique du monde ».
Vous en avez parlé tout à l'heure du projet Globetrotter. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce que c'est, justement ?
Peut-être je peux commencer par comment est née cette idée. puisque c'est la deuxième année. Chaque année, les escales s'intéressent à un territoire du monde. Donc, il y a eu des thématiques autour d'un groupe de pays. Puis, on est arrivé de manière à s'approcher un peu plus des cultures de chacun des territoires, à s'intéresser à une ville où il va y avoir à foison d'artistes qui sont très combatifs dans l'idée d'exister artistiquement. On a pu faire la dernière en date, Sao Paulo. Et puis, il y a eu cette coupure dans le temps, cet arrêt avec la crise sanitaire et la difficulté pour nous de pouvoir faire notre boulot. Moi, pendant ce temps-là, j'avais des échanges avec des festivals étrangers, des artistes étrangers un peu partout, qui ne vivaient pas un réel bonheur, quelles que soient les latitudes, c'est qu'ils ne pouvaient plus sortir de leur pays, tout comme nous, et ne pouvaient plus se produire sur les scènes du monde entier, même dans leur pays. Et tout le monde se trouvait isolé, un peu renfermé sur soi-même. Et de par ces échanges, je me suis dit, mais on fait le même boulot. L'accès aux artistes étrangers maintenant est hors de prix. Seuls les gros festivals peuvent se payer des artistes étrangers. Se cantonner à une programmation française et francophone, ben, ce n'est pas notre ADN non plus. Donc tous ces faits m'ont amené à penser autrement. Comment on peut travailler en adéquation avec d'autres événements qui sont semblables aux nôtres, en travaillant ensemble pour inviter et mettre en avant des cultures d'ailleurs. C'est comme ça qu'est née cette idée de Globetrotter. Donc en 2022, on a invité 8 autres festivals implantés dans plusieurs territoires, sur quasiment tous les continents, puisqu'il n'y avait pas l'Asie, qui était encore fermée, les frontières étaient encore fermées. Et comment ces festivals-là pouvaient mettre en avant les artistes qui ont marqué leurs événements. Donc, ils m'ont alimenté de 4-5 artistes qui ont cartonné sur leurs éditions précédentes. Et ensemble, on a fait le choix d'un ou deux artistes qu'on a pu inviter l'an dernier. Ils n'avaient jamais mis un pied en France ou en Europe, pour ceux qui sont hors du territoire européen. Et ça a été un véritable succès, avec une rencontre extraordinaire entre même la population nazarienne et certains de ces artistes. Je pense à Steph Strings, qui est revenu jouer au VIP le 7 mai, et d'autres, hein, évidemment, qui, par la même occasion, ont pu développer leur carrière à l'international, puisque 6 des 10 invités ont rencontré un agent français ou anglais qui, maintenant, développe leur carrière à l'international. Donc, c'est aussi un pied d'entrée pour eux pour développer leur carrière. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née cette édition Globetrotter, avec l'idée de s'intéresser aux sons qui vont nous arriver très rapidement, à nous, oreilles d'occidentaux. Mais de partout dans le monde. On a vu que là, en ce moment, depuis 5 ans peut-être, le Nigeria envahit les ondes. Hein. Rema et tous ceux qui suivent sont ces nouvelles sonorités. On a eu la cumbia, on a eu ces sonorités d'Amérique latine. Et bien là, il y a des nouvelles sons. Il y a des nouveaux sons, je pense, sur cette partie folk en Australie, sur l'Asie aussi, avec la scène électro qui est foisonnante. Là, on va voir Closetti. C'est un bel exemple. Voilà, c'est comment par le biais de cette histoire de Globetrotter, en s'appuyant sur d'autres festivals qui étaient isolés il y a encore 3 ans, on peut mettre en avant des artistes qui vont être le futur, en fait, et leur faire confiance. C'est eux qui vont donner une forme de conduite ou enfin nous inspirer pour l'avenir aussi. Et puis, bah, les langages changent. Y a, avec Internet, tout est plus simple pour la création artistique, puisqu'on s'affranchit des barrières. On reste inspiré par notre culture de territoire. Moi, si je suis français, ben, j'ai mon quotidien. Je côtoie énormément de gens qui jouent d'une certaine musique, empreinte de notre culture. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on est sur des territoires asiatiques, d'Afrique, d'Amérique du Sud, eh ben, ils vont faire du rock. Mais leur culture est toujours présente. On sent une instrumentation particulière, des choses comme ça. Et c'est aussi ce qui fait cette différence.
Êtes-vous amené à voyager pour ce projet Globetrotter ?
Oui, je me rends sur les autres festivals pour voir et entendre surtout ces artistes qui vont être les invités des éditions prochaines. Donc je voyage, en général, je fais 2 à 3 pays par an. Sur des événements musicaux. où c'est très intense, parce que j'arrive pour le début du festival, je repars à la fin. Donc on voit, je vois peut-être une trentaine de groupes sur ces périodes-là. Et puis sur place, j'essaie de monter aussi des partenariats pour faciliter les financements des transports de ces artistes-là pour qu'ils puissent venir en France. On développe des partenariats aussi avec des financeurs locaux qui peuvent aussi accompagner les artistes pour leurs déplacements internationaux. Et on essaie de travailler à ce que ce ne soit pas que un one shot, je viens à Saint-Nazaire pour les escales, mais comment je peux profiter de ma venue aux escales pour développer une tournée plus globale en Europe. Donc arriver plus tôt et repartir plus tard et aller jouer au Portugal, aller jouer en Allemagne, aller jouer en Angleterre ou en Espagne. Et c'est ce qu'on... Nous, on essaie d'accompagner ces artistes-là dans cette idée de façon à ce que, aussi, on ait un peu une réflexion sur notre bilan carbone. Et ça, c'est primordial.
Quels sont les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer avec les artistes ou l'organisation ?
Oh, bon, en ce moment, on est sur le bouclage des transports de ces artistes internationaux dont je viens de parler. Donc, c'est l'inflation des billets d'avion, c'est les demandes de visa sur certaines destinations. Tout le monde n'est pas... On n'est pas tous égaux pour la libre circulation. Il y a des destinations où c'est très, très compliqué. C'est une vraie bataille pour obtenir les visas de certains artistes. C'est un travail de longue haleine qui prend plus de 3 mois pour certains. Et ça, c'est problématique parce qu'on a l'intention, on a l'envie artistique, on a des artistes de grande qualité face à nous et peut-être qu'ils ne peuvent pas sortir de leur territoire parce que le visa est trop compliqué à obtenir. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs. Et puis, quand on fait des choix artistiques, on espère que le public va répondre présent. Et ça, on fera le bilan à la fin de l'édition. Mais j'espère que la programmation de cette année va permettre au minimum qu'on puisse équilibrer financièrement l'événement. Parce qu'il en va de sa durée dans le temps et de pouvoir perdurer et exister encore longtemps. Nous, on n'a pas envie de s'arrêter jamais, en fait, en réalité. Et donc, l'équilibre financier, c'est une préoccupation de tous les moments.
Que faites-vous le reste de l'année lorsque le festival est terminé ?
Moi, c'est mon boulot à l'année. J'y bosse un an à construire une programmation. Donc, ça m'occupe toute mon année. Il y a des choses qu'on voit moins, en dehors de lire sur une affiche et de se rendre sur le festival. C'est tout ce qu'on peut développer en relation avec... la population du territoire. Il y a les actions qu'on mène avec les écoles de la ville de Saint-Nazaire. Quasiment la totalité des écoles publiques sont impliquées sur un projet dans le cadre des temps périéducatifs. Depuis janvier, les enfants travaillent, entre guillemets, sur la connaissance des différents territoires invités pour le Globetrotter et vont produire des œuvres qui vont être exposées pendant le festival. Les restaurants scolaires de la ville vont manger sur une thématique escale, puisqu'il y aura un repas thaïlandais au mois de juin, par exemple. Il y a eu un petit groupe d'élèves de constitués à qui j'ai présenté les différentes destinations. Ils ont choisi la Thaïlande et avec la diététicienne de la ville, ils ont choisi un menu qu'ils ont élaboré par eux-mêmes. On fait aussi des concerts pour les personnes âgées. Donc ça, c'est aussi un long temps de préparation. On travaille comme ça avec différents publics. Et puis, vous avez peut-être vu déjà dans la ville, il y a beaucoup de murs d'immeubles qui sont joliment habillés de magnifiques fresques réalisées par des artistes du monde entier. Et beaucoup de ces œuvres ont été réalisées dans le cadre des escales. Et là, il y a une œuvre qui va commencer le 5 juin, proche de la place du Commando, réalisée par 2 artistes estoniennes qui arrivent le 4 pour commencer le 5 pour une durée de 15 jours. Donc ça aussi, c'est tout un travail qui prend du temps. Et puis, y a les montages de dossiers de financement, il y a le salariat des artistes, il y a beaucoup une partie administrative. Donc, on est une équipe, bien sûr, aux escales, je ne suis pas tout seul. Et tout ce boulot demande réellement une année de préparation.
Est-ce qu'il y a un artiste que vous rêvez d'inviter et est-ce que vous avez déjà invité un artiste que vous aviez très envie d'inviter ?
Oui, j'ai invité beaucoup d'artistes que j'avais très envie d'inviter. Un de mes souvenirs les plus marquants, c'est peut-être Iggy Pop. Je ne sais pas si vous connaissez.
Si.
Et qui est venu il y a 4-5 ans maintenant. Voilà, ça c'était une grande chance que de pouvoir l'accueillir sur le festival. Mais j'étais très heureux d'accueillir Orelsan ou L'Homme Pâle il y a 4 ans. Enfin voilà, hein, c'est... Mais cet artiste-là, pour moi, il avait beaucoup d'importance dans mon... dans mes goûts musicaux et puis de comment il a bercé mon adolescence ou ma jeune vie d'adulte, en tout cas. Et puis des artistes que j'ai envie d'inviter, il y en a tellement que ça serait difficile de les énumérer, mais il y en a beaucoup. Hein.
Et enfin, avez-vous une anecdote sympa ou même drôle à nous raconter ?
Ah ben, y a plusieurs anecdotes. Vous savez, le Petit Maroc, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une commémoration, puisque le site héberge un monument en faveur de l'abolition de l'esclavage, pour ne jamais oublier ces temps passés horribles. Et certains des artistes, quand ils ont l'information, ou quand on se pose la question de voir cette sculpture avec un homme noir enchaîné, et qu'on leur explique que c'est un monument du souvenir, et ben certains viennent et se recueillent sur cet espace-là. C'est poignant, c'est vraiment poignant. Donc moi, ça arrive encore, donc c'est des choses assez récurrentes. Donc c'est une anecdote qui n'est pas banale pour moi, elle a énormément de sens parce que quand on fait une programmation du festival Les Escales, on a en tête justement le respect du genre humain, quelles que soient ses confessions, quels que soient nos genres de manière générale. Et quand on peut avoir ce témoignage d'artistes qui sont sensibles à ces causes, ben, moi je dis pari gagné, quoi. Et c'est des bons moments. En tout cas, on fait aussi ce boulot pour ces choses-là.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Eh ben, merci de m'avoir accueilli.
Merci encore à Jérôme Gaborio d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Basile qui nous a aidés à préparer cette interview, mais qui n'a pas pu être présent ce jour-là.